France Inter.
Bonjour à tous. Où et quand, après le sommet de Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens? Question sur une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et le président ukrainien qui se dit d'accord sur le principe. Ce doit être préparé très minutieusement, répond Moscou à l'instant. Dès ce matin, nouvelle réunion, cette fois de la coalition des volontaires pour l'Ukraine et des pays de l'Union européenne. Toujours assez peu d'éléments sur l'éventuel plan de paix en Ukraine. Et Emmanuel Macron, toujours sans complaisance pour le maître du Kremlin.
C'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf.
Le chef de l'État sur LCI, interview enregistrée hier soir. Il a atterri il y a quelques heures en France. Nous sommes à la descente de l'avion dès le début de ce journal. L'actualité, c'est aussi la mort suspecte hier en live d'un streamer français alors qu'il subissait depuis plusieurs mois violences physiques et verbales en direct sur Internet. C'était même l'objet assumé de ces lives. La canicule est enfin terminée, mais attention aux orages. Trois départements du Sud en vigilance orange. La Ligue de foot professionnelle revendique déjà 600 000 abonnés pour sa nouvelle chaîne. C'est plus que sur toute la saison dernière. Et vous verrez qu'en Suède, on déplace une église tout entière pour faire de la place à une mine de fer.
France Inter.
Le feu russe s'est abattu une nouvelle fois cette nuit sur la région ukrainienne de Poltava. Plusieurs centaines de foyers privés d'électricité, des bâtiments endommagés. Mais heureusement, pas de victimes, a précisé le gouvernement local. Une attaque alors même qu'à Washington, Donald Trump appelait Vladimir Poutine. Après des discussions sur un éventuel plan de paix avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs chefs d'État et de gouvernements européens, dont Emmanuel Macron. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous avez suivi le président de la République aux États-Unis. Vous venez d'atterrir en France. Emmanuel Macron, à son retour de la Maison-Blanche, prudent.
Oui, malgré les belles images d'unité transatlantique, l'annonce d'une rencontre bilatérale entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, puis trilatérale, comme le demandaient les Européens, Emmanuel Macron, lui, est resté réservé sur cet agenda à l'issue du sommet.
Réunion, donc c'est une avancée. Et je ne peux pas préempter ces résultats. Est-ce que je pense conclusif ? Je reste très prudent.
Une réserve qui tranche avec l'optimisme de ses collègues européens, car à Paris, on a déjà négocié avec Vladimir Poutine en 2014 lors des accords de Minsk et on redoute que Moscou applique la même méthode. Gagner du temps, multiplier les manœuvres dilatoires, volonté d'affaiblir l'Ukraine, d'empocher des territoires. Hier, la Crimée, aujourd'hui le Donbass. Vladimir Poutine est un ogre, comme l'a dit le président français sur LCI hier soir. Le lieu du face-à-face entre les deux chefs d'État aura aussi son importance. Emmanuel Macron plaide pour qu'il se déroule à Genève, en pays neutre, dit-il.
Prudence également sur les garanties de sécurité à l'Ukraine, dont il a été question hier soir lors du sommet.
Oui, de même. Hier, Emmanuel Macron n'a pas applaudi à tout rompre les déclarations de Donald Trump sur une implication américaine sur les garanties de sécurité. C'est un début, a-t-il nuancé.
Je le dis, on a progressé, mais je serai encore très prudent, parce que tout ça est éminemment complexe. Plein de détails et il faut travailler sur la matérialité des choses.
Car en effet, ces dernières semaines, les diplomates européens n'ont pu que constater les changements de pied successifs de Donald Trump sur le cessez-le-feu, sur les sanctions secondaires et observer les positions contradictoires au sein de l'administration Trump. Même si les Européens peuvent se féliciter après ce sommet d'avoir réarrimé Washington et ouvert la perspective d'un travail commun entre la coalition des volontaires et les États-Unis.
Merci Marie Mollet, service politique de France Inter avec les moyens techniques de Johanna Gabrick. Moscou n'avait pas encore réagi à ce sommet à la Maison-Blanche. Le ministre russe des Affaires étrangères vient de le faire. Tout accord de paix doit prendre en compte les intérêts de sécurité de la Russie, dit Sergueï Lavrov, selon qui, par ailleurs, tout contact impliquant les dirigeants russes et ukrainiens doit être préparé, je cite, très minutieusement. Et à l'instant, le gouvernement suisse fait savoir qu'il offrira l'immunité à Vladimir Poutine s'il vient pour une conférence de paix. Le président russe est visé, on le rappelle, par un mandat d'arrêt international. Pendant ce temps, la coalition des volontaires dont parlait Marie Mollet s'est réunie à distance il y a un peu moins d'une heure quand une réunion en visioconférence vient tout juste de commencer. Celle des 27 pays de l'Union européenne qui attendent d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants de l'UE présents hier un compte-rendu détaillé. Des discussions qui s'enchaînent quand Donald Trump appelle toujours de ses voeux donc un sommet dans les prochains jours pour réunir les deux parties, ukrainiennes et russes. Que ce soit en Alaska ce week-end ou à Washington hier, rien de concret n'est sorti vis-à-vis de la fin de la guerre en Ukraine. C'est le temps de la diplomatie, explique Bertrand Badie, spécialiste et de relations internationales et professeur émérite à Sciences Po Paris.
Tout ce qui s'est passé depuis une semaine a porté les habits de la diplomatie. Mais on est dans la démonstration d'une volonté de la part du président américain d'apparaître comme étant le grand manager du monde, d'une volonté de la part de l'Ukraine de sauver l'essentiel de ce à quoi elle peut légitimement prétendre, d'une volonté de la Russie de revenir au centre de la scène internationale et surtout une volonté de l'Europe de faire face à ce défi qui est probablement le plus grave qu'elle ait eu à affronter depuis 1945. Maintenant, est-ce que la diplomatie peut suffire? Est-ce qu'elle est adaptée aux donnes nouvelles du monde? Ça, c'est une autre question.
Le spécialiste des relations internationales, Bertrand Badie, il répondait à Justine Leblon. Ces sommets, pour le moment, se tiennent loin de Kiev, mais les Ukrainiens les suivent très attentivement, s'interrogeant avant tout donc sur cette possible rencontre Zelensky-Poutine, comme vous l'avez constaté, Boris Loumagne, dans les rues de Kiev.
Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine bientôt côte à côte. Quand on évoque cette possibilité, on peut lire du dégoût sur le visage de Larissa.
J'espère que Zelensky ne lui serrera pas la main. Ce serait inacceptable de serrer la main de cet assassin, de ce sadique. Je pense que Zelensky se contentera d'un signe de tête.
Mais cette mère au foyer le sait, Kiev ne peut refuser une telle entrevue et son président a eu raison d'afficher sa bonne volonté auprès des alliés européens et américains.
Je pense que l'Ukraine doit profiter de toutes les opportunités pour que la guerre s'arrête. Mais en même temps, je ne crois pas que Poutine acceptera cette rencontre bilatérale. Et encore moins qu'il abandonnera son objectif qui est de détruire l'Ukraine.
Oui, sur ce point, la majorité des Ukrainiens sont d'accord. Le président Poutine ne veut pas la paix. Et ce n'est sans doute pas une réunion bilatérale qui changera la donne, d'après Mikola, qui est photographe.
La langue de la diplomatie, les Russes ne la comprennent pas. Il nous faut des armes et des succès militaires sur le front. Il faut leur montrer qu'ils perdent du terrain. Et ce n'est qu'après tout ça qu'on pourra avoir des discussions diplomatiques avec eux.
Voilà pourquoi l'Europe et les États-Unis doivent renouveler leur soutien militaire, selon Mikola, pour que cela puisse peser lors des futures négociations.
Boris Loumagne, envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Là aussi, c'est l'attente, celle de la réponse d'Israël à la nouvelle proposition de cessez-le-feu formulée par l'Égypte et le Qatar, pays médiateur, acceptée hier par le Hamas. Elle prévoit un arrêt des frappes et des raids israéliens de 60 jours en échange de la libération des otages retenus depuis près de 3 ans par les mouvements islamistes à Gaza en deux phases. À l'instant, le Qatar affirme que cette proposition reprend, je cite, presque intégralement un précédent plan approuvé par Israël. Premiers ordres d'évacuation en Caroline du Nord, alors que l'ouragan Erin poursuit sa course dans les Caraïbes avec des vents à plus de 200 km/h. Les autorités américaines craignent que des vagues de près de 5 mètres de haut ne frappent la côte est des États-Unis. Quant en France, après la canicule, nouvelle vigilance orange aujourd'hui, mais pour pluie et inondations. L'Hérault, le Gard et la Lozère sont concernés en raison des forts orages attendus aujourd'hui, dit Météo France. On y reviendra avec les prévisions d'Olivier Proust juste après ce journal.
France Inter, le journal de 13h, Kevin Dufraîche.
Vous ne connaissiez peut-être pas son nom, mais il était suivi par plus de 500 000 personnes sur TikTok et Twitch. Le streamer français Jean Pormanov est mort hier à l'âge de 46 ans. Connu pour ses lives jeux vidéo, il apparaissait ces derniers mois dans des directs sordides, victime devant les caméras de violences physiques et d'humiliations. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour à tous.
Les conditions de son décès sont encore floues, mais elles interpellent. Le parquet de Nice, où il vivait, a ouvert une enquête. Le vidéaste est mort pendant un live.
Oui, la vidéo circule depuis hier sur les réseaux sociaux, un corps inerte recouvert d'une couette sur un matelas. Cet homme, Jean Pormanov, ne répond pas à ceux qui l'interpellent. On lui envoie même une bouteille en plastique pour tenter de le réveiller. Puis le live s'arrête. Un direct qui avait démarré il y a près de 300 heures, soit plus de 12 jours, dans un local à Comte, au nord de Nice. Raphaël Graven, de son vrai nom, était ces derniers mois au centre de vidéos en direct macabre des défis, ou plutôt des brimades, victimes d'humiliation de la part de deux hommes, Safin et Naruto, ce sont des pseudos. Tous deux sont visés par une enquête policière depuis décembre, car Jean Pormanov était frappé, étranglé en direct, visé par des tirs de paintball.
Voilà, me fais mal, il fait mal.
Des vidéos visionnées en direct par des milliers de spectateurs sur la plateforme Kick.
Et oui, Victor, on connaît Twitch, on connaît les directs sur YouTube. C'est quoi cette autre plateforme de streaming Kick ?
Et Kick, c'est comme un coup de pied en anglais créé il y a 3 ans. C'est une plateforme beaucoup plus laxiste, devenue le repère des bannis de Twitch. Kick permet aussi une meilleure rémunération à ses créateurs de contenu. La majorité des dons des internautes reviennent directement dans la poche des vidéastes. La ministre chargée du numérique, Claire Chappaz, affirme avoir saisi l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, et contacter les responsables de la plateforme, je cite, pour obtenir des explications.
Une précision signée Victor Vasseur, rédaction numérique de France Inter. L'allocation de rentrée scolaire versée à partir d'aujourd'hui entre 423 et 462 euros selon l'âge de l'élève est versée aux parents en fonction des revenus. Ce matin, l'UFC Que Choisir regrette qu'elle ait été revalorisée seulement d'1,7% cette année, alors que selon l'association, le prix des fournitures est en hausse de 2%, ce qui représenterait donc une perte de pouvoir d'achat pour les familles. Hier, une autre association, Famille de France, affirmait pourtant que le prix du matériel scolaire était plutôt en baisse, moins 5,5% pour la rentrée d'un collégien de 6e par rapport à 2024. Il se fixait comme objectif d'atteindre rapidement le million d'abonnés à Ligue 1+, la nouvelle chaîne de diffusion du championnat de France de football, gérée directement par la Ligue. Et bien ce matin, Nicolas de Taverneau, le patron de LFP Média, affirme qu'ils sont déjà plus de 600 000 à y avoir souscrit sur la seule semaine de lancement. Bonjour Nathalie Yaneta.
Bonjour Kevin, bonjour.
Directrice des sports de Radio France. On connaît l'enjeu de cette chaîne pour le foot français. Pour les clubs, c'est un début de succès ?
Ah, c'est un peu plus que ça quand même. Je vous rappelle que le produit Ligue 1 était profondément abîmé, que l'accès à la consommation de la Ligue 1 depuis Mediapro, en gros depuis 5 ans, c'était très compliqué. Donc il y avait une énorme inconnue. Est-ce que oui ou non, après des années de piratage, on allait reconquérir le cœur d'abonnés, les amener sur une plateforme à payer pour voir la Ligue 1. Donc oui, c'est plus qu'un succès, c'est un démarrage en trombe, on va dire, pour Ligue 1 Plus.
Et est-ce que ces bons chiffres de départ, et maintenant qu'on sait à quoi ressemble aussi hein, Ligue 1 Plus après un premier week-end de championnat, ça peut créer un effet d'entraînement ?
Vous le disiez, hein, l'objectif c'est 1 million, et là oui, il est largement atteignable. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça a marché le premier week-end, techniquement, éditorialement, il y avait de la qualité. Donc tous ceux qui sont peut-être encore en vacances, ou qui se sont dit on va attendre pour voir, avec l'attractivité des prix et surtout la facilité pour accéder à cette plateforme. Je rappelle que tous les distributeurs internet la diffusent, que si vous avez une télé connectée, c'est simple aussi, vous téléchargez l'application, vous l'avez directement sur vos écrans. Donc cette qualité, cette ouverture, normalement, ça devrait pouvoir permettre d'atteindre ce million. C'est un peu comme si tout le monde avait compris que la qualité du produit proposé, ben, c'est ça qui va faire son attractivité.
Nathalie Yaneta,
et pas l'inverse.
Vous le disiez, Ligue 1 Plus disponible sur de nombreuses plateformes, pas encore sur Canal Plus. Hein, dans son interview à l'équipe ce matin, Nicolas de Taverneau dit continuer à souhaiter que le groupe renonce à son refus de donner accès à la chaîne. Là, c'est l'inarrêtable chute d'un club qui évoluait en Ligue 2 il y a encore quelques semaines. L'AC Ajaccio a déposé le bilan. Les joueurs et les 120 salariés sont désormais sans contrat. 27 ans après l'avoir obtenu, l'AC Ajaccio va perdre son statut professionnel et jouera l'an prochain en 5e ou 6e division. Enfin, voilà un déménagement spectaculaire, bien qu'extrêmement lent. Ça se passe à Kiruna, 18 000 habitants au nord de la Suède. Depuis 8 heures ce matin, une église luthérienne en bois, âgée de plus d'un siècle, est déplacée en entier sur des roulettes, un morceau de patrimoine déplacé pour des raisons économiques, puisque c'est pour permettre l'expansion d'une gigantesque mine de fer. Bonjour Rosalia MacArthur.
Bonjour.
C'est une vraie prouesse technologique.
Imaginez un monstre de bois rouge avec des toits en pente qui descendent jusqu'au sol. Il avance comme un escargot entre 500 mètres et 1 km par heure. Écoutez, ça ne fait pas beaucoup de bruit. L'église a été chargée en un seul morceau sur un convoi spécial, des poutres et des remorques à roulettes. Son voyage de 5 km a d'abord été béni ce matin. Il doit être suivi par 10 000 personnes sur place, en plus des 18 000 habitants de Kiruna. Le roi de Suède lui-même est attendu. Chaque mètre est filmé, retransmis en direct à la télévision suédoise, car c'est une étape symbolique du déménagement de Kiruna liée à ce chantier de la mine de fer voisine, lancé il y a 25 ans. Un chantier immense et qui continue de s'étendre. Les travaux vont durer jusqu'en 2035.
Rosalia MacArthur de la rédaction internationale de France Inter, et pas besoin d'être suédois pour assister au spectacle, c'est diffusé en direct sur Internet. La météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Et bonjour Olivier Proust.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Pluie, orage et fraîcheur au programme ces jours-ci.
Et les orages se multiplient cet après-midi du Languedoc et du Massif central aux Alpes et en Provence, avec un risque d'orage fort, de la grêle et des précipitations intenses. Et on surveille de forts cumuls en peu de temps en Languedoc, avec donc, comme vous l'avez dit, trois départements en orange pour pluie et orage. Entre Cotentin et Pointe-Bretagne, de l'autre côté de la perturbation, les pluies orageuses se renforcent cet après-midi, avec parfois de forts cumuls. Ailleurs, des ondées plus éparses, faiblement orageuses, mais qui n'épargnent pour l'instant qu'une frange nord-est. Les températures poursuivent leur baisse dans l'ouest avec 22 à 27 degrés, des valeurs fraîches pour la saison dans le sud-ouest. Elles restent chaudes dans la moitié est avec 29 à 32 degrés.
Et demain, des orages et de la pluie dans le nord.
La perturbation va continuer sa route vers le sud-est. Cette nuit et toute la journée de demain, des pluies fortes et durables devraient s'organiser sur son flanc nord, c'est-à-dire de Grand Est vers le bassin parisien. Et la vigilance est susceptible d'évoluer dès ce soir. Dans le sud, encore des orages. Et côté température, cette perturbation va mettre tout le monde d'accord, avec plus que 21 à 25 degrés du nord au sud, encore 26 à 32 en Méditerranée.
Merci Olivier Proust de Météo France.